Donc on commence par Camille Pogny qui nous parle de la politisation des différents fragments, c'est le mot important, des classes populaires, le poids de l'intégration professionnelle et des collectifs de travail. 20 minutes.
Merci beaucoup. Je déclenche le chronomètre. Je vais donc vous présenter quelques résultats issus d'un papier qui est paru dans le dernier numéro de la Revue française de sciences politiques. Donc je vais juste insister sur deux ou trois résultats pour ne pas être trop long, mais pour avoir quand même le temps de développer un peu autour de ces deux points. Alors, ce dont je vais parler par rapport aux sessions précédentes, c'est pas d'une dimension, enfin c'est au contraire d'une dimension très institutionnelle de la participation politique ou de la politisation, puisqu'il s'agit vraiment, sans fioriture aucune, de la participation aux différents tours des différentes élections de 2012, grâce aux données très riches et solides de l'enquête participation électorale de l'INSEE, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc au départ, ce travail s'inscrit dans une volonté plus large de contribuer à l'étude de la stratification interne aux classes populaires, les classes populaires qui, du côté du débat public, retrouvent peut-être une certaine visibilité depuis quelques années, alors que dans les décennies 80 et 90, c'était peut-être plutôt les classes moyennes qui focalisaient l'attention, d'abord pour souligner le rôle central des classes moyennes dans le processus de changement social, puis, à partir des années 90, pour questionner ce qui serait la déstabilisation ou le déclassement d'une partie des classes moyennes. Et depuis quelques années, alors le 21 avril 2002, le référendum de 2005, évidemment la crise financière de 2008, il y a à nouveau un certain intérêt dans le débat public pour les différentes catégories qu'on pourrait ranger parmi les classes populaires. Sauf que, évidemment, dans le débat public, les classes populaires sont toujours présentées comme formant un tout artificiellement uni, artificiellement homogène, et quand on parle de rapport aux politiques, soit c'est pour en dénoncer l'abstention, ce qui serait l'abstention des classes populaires ou des classes populaires perdues pour la gauche ou des classes populaires votant pour le Front National. Et donc je voulais contribuer à la déconstruction de ces discours. Du côté des sciences sociales et de la sociologie en particulier, on a au contraire beaucoup de travaux qui vont décrire de manière très fine, très ethnographique, un certain nombre de catégories de salariés subalternes, d'ouvriers et d'employés. Beaucoup sont d'ailleurs réalisés ici au CRESPA, petite minute corporate. Et on dispose par contre de beaucoup moins de travaux qui vont donner à voir la manière dont l'ensemble de ces différentes catégories de salariés subalternes s'articulent les unes aux autres ou se situent les unes par rapport aux autres dans l'espace social. Or, il me semble qu'on dispose désormais de données statistiques d'assez bonne qualité, qui certes ont des défauts, mais qui permettent de dessiner les contours ou le périmètre de ces classes populaires, et par exemple d'en décrire un certain nombre de conditions de vie, de conditions d'emploi, de pratiques culturelles ou d'attitudes politiques, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce papier. Alors évidemment, pour donner à voir la stratification interne aux classes populaires, il faut prendre en compte les importantes transformations qui les ont affectées au cours des dernières décennies. Je ne vais pas développer. Employés et ouvriers, aujourd'hui, continuent à représenter plus d'un actif occupé sur deux. On est à peu près à 51%. Et par contre, les contours et la structure de ces espaces populaires ont été considérablement transformés. Je trouve qu'Olivier Schwartz l'a dit très bien, en écrivant qu'il fallait désormais penser les classes populaires en termes de domination, bien sûr, encore, puisque à bien des égards, et notamment dans le monde du travail, les salariés subalternes sont dans des situations de domination, mais aussi, dit-il, en termes d'extraversion, puisqu'elles n'ont pas été indemnes et épargnées par un certain nombre de transformations qui ont contribué à bouleverser profondément la société française, et notamment la diffusion de l'éducation. Juste pour vous donner un chiffre, dans l'enquête emploi de 2012, 20% des ouvriers qui travaillent en 2012 dans un emploi d'ouvrier sont bacheliers. 20%. La proportion, c'était 4% il y a 25 ans, en 1987. Et donc, évidemment, il y a une extraversion complète de ce point de vue. Or, on sait bien que le niveau d'éducation est quelque chose d'important dès lors que l'on s'intéresse à la légitimité qu'on peut ressentir à avoir un avis politique ou à aller voter. puis évidemment, il y a eu les bouleversements sur le marché du travail, le déclin des ouvriers de l'industrie, la montée des services. Alors, j'insiste beaucoup parce que j'y reviendrai. Si, par exemple, on regarde les effectifs de ce que l'INSEE classe parmi les personnels des services directs aux particuliers, qui est la PCS 56, on est passé en 25 ans, hein, 87-2012, de 1,1 million de salariés à 2,4 millions de salariés. Donc, il y a eu vraiment une explosion assez rapide de ces emplois des services à la personne. Alors, mon idée ici, c'était de montrer que cette stratification interne aux espaces populaires produisait des rapports différents, différenciés aux politiques, et donc de contribuer à déconstruire cette hétérogénéité. Alors, évidemment, quand on parle du rapport à la politique, on est tous marqués par la théorie du sens caché, et bien évidemment, il ne fait guère de doute qu'il s'exerce encore à bien des égards aujourd'hui, mais simplement, pour reprendre la question du niveau d'éducation, il faut questionner les manières dont il peut aujourd'hui se structurer lorsque 20% des ouvriers sont bacheliers, et qu'on sait que cette question du niveau d'études est centrale dans le rapport aux politiques. Alors, rapidement, les données et ce que j'appelle rapport aux politiques. Donc, je vous disais, c'est une dimension très institutionnelle ici, puisque c'est la participation aux élections de 2012, mesurée dans l'enquête participation électorale de l'INSEE, qui est une enquête assez formidable. Il en reste encore à l'INSEE, celle-là notamment, puisque, en fait, on tire dans le recensement, un échantillon de 280 000 individus, qui constitue ce qu'on appelle la base inscription, c'est-à-dire on va voir s'ils sont inscrits sur les listes électorales. Et puis, au sein de ces 280 000, on sélectionne un échantillon de 40 000 personnes, et là, on va voir s'ils ont été votés, ce qui est absolument essentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas du déclaratif, c'est des enquêteurs de l'INSEE qui vont dans les préfectures pour vérifier les registres d'émargement des individus tirés au sort. Donc on n'est pas sur du déclaratif, mais sur quelque chose qui est du domaine de ce qui est effectivement réalisé. Donc c'est cette enquête-là qui permet d'avoir des effectifs très élevés et d'aller bien au-delà des distinctions habituelles entre ouvriers qualifiés, non qualifiés, industrie, artisanat. Ma définition des classes populaires est mauvaise, puisque dans ce papier, je m'intéresse aux employés et aux ouvriers, donc j'exclus d'emblée une partie des indépendants dont on sait très bien que certains d'entre eux ont des conditions de vie qui pourraient les rattacher aux espaces populaires, et puis à l'inverse, le haut des employés, ce qu'Alain Chenu appelait l'aristocratie des employés, dans les banques, les assurances, dans la fonction publique, pourrait être rattaché davantage peut-être aux franges inférieures des classes moyennes. Mais l'idée aussi, c'était de contribuer à voir justement ces contours des classes populaires. Donc je me concentre sur deux idées, deux résultats. D'abord, je vais vous montrer un ou deux tableaux pour mettre en évidence la forte disparité interne aux différentes catégories d'ouvriers et d'employés. Puis dans un deuxième temps, je parlerai de ce qui m'a semblé être le poids important des caractéristiques liées au travail, de l'insertion dans un collectif de travail et de la socialisation professionnelle dans cette participation électorale. Alors, le premier résultat, c'est celui de la mise en évidence d'une forte hétérogénéité. Ouais, bon, vous n'allez pas voir grand-chose, aux différents tours des différentes élections de 2012. Donc, j'ai repris...
Est-ce que je gêne là où je suis ?
Et surtout, est-ce que vous voyez quelque chose ou pas du tout ?
Moi, j'ai la version originale, donc je vais peut-être me pousser, oui.
Donc, c'est pas grave, on ne va pas rester très longtemps sur ces tableaux. C'était juste pour vous donner une mesure de ce qui était relevé en termes de participation. Donc, à gauche du tableau, on a les deux tours des élections présidentielles, les élections législatives au milieu, et puis tout au bout, à droite, j'ai mis un indicateur, sur la séquence entière, c'est-à-dire les trois ou quatre tours des élections de 2012, puisque un certain nombre d'enquêtés habitent dans des circonscriptions où l'élection législative s'est jouée au premier tour. Donc il y a trois ou quatre tours. J'ai repris là dans ce tableau la nomenclature à deux chiffres des catégories socio-professionnelles de l'INSEE. Le principal résultat, c'est que si on regarde d'abord l'élection présidentielle, qui est traditionnellement l'élection la plus mobilisatrice, et donc traditionnellement l'élection lors de laquelle les clivages en termes de participation sont les plus faibles entre les différentes catégories sociales, on s'aperçoit qu'il y a néanmoins des écarts de participation très importants. Je vous donne un exemple. Donc, en moyenne, 9% des employés se sont abstenus aux deux tours des présidentielles et 11,6% des ouvriers. Mais au sein des employés, les écarts vont de 6,6% d'abstention aux deux tours chez les employés administratifs du privé, aux alentours de 7 dans les mêmes eaux pour les employés administratifs du public, donc 6 ou 7%, et on est à 12% pour les employés de commerce et à 15% pour les policiers et militaires. Alors là, pour le coup, c'est une très mauvaise catégorie, puisqu'elle agglomère certes majoritairement des policiers et des militaires fonctionnaires, par exemple, mais il y a aussi tous les agents de sécurité, les vigiles, qui ne sont pas du tout ni dans le même profil sociodémographique. Voilà, donc le score des policiers et militaires, on en parlera si vous voulez tout à l'heure. Mais toujours est-il qu'il reste chez les employés des différences très importantes. Chez les employés, c'est pareil. Le minimum d'abstention aux deux tours, c'est 7% chez les ouvriers qualifiés de l'industrie. Et on est à 15% pour les ouvriers non qualifiés de l'artisanat. Donc même pour une élection qui est très mobilisatrice comme l'élection présidentielle, des écarts de participation importants subsistent. Ils sont encore plus forts lors des élections législatives, qui traditionnellement mobilisent moins, encore moins depuis qu'elles suivent immédiatement l'élection présidentielle et qu'elles servent uniquement à confirmer le résultat du scrutin présidentiel. Là, on a des écarts qui sont de l'ordre de 10 points entre les plus participatifs des employés, les plus intégrés, les employés administratifs du privé et du public, et puis, par exemple, les employés de commerce. Chez les ouvriers, pareil, les écarts de participation peuvent être très importants. 33% d'abstention aux deux tours des législatives chez les ouvriers qualifiés de l'industrie, et on est à 45% chez les ouvriers agricoles, 46% chez les ouvriers non qualifiés de l'artisanat, qui sont plus nombreux que les ouvriers agricoles. Et puis on retrouve évidemment ces chiffres sur l'ensemble de la séquence. 6% des agents de service de la fonction publique participent à aucun des 3 ou 4 tours de la séquence. C'est 12% des employés de commerce. Et puis on retrouve, je ne vous ensevelis pas sous les chiffres, les mêmes écarts chez les ouvriers. Alors j'ai construit autre chose dans ce papier, qui est de raisonner au niveau des groupes socio-professionnels. Et en fait, je me suis posé la question sur 100 employés, sur 100 ouvriers qui travaillent en France, j'insiste sur le fait qu'ils travaillent en France, combien vont effectivement aller voter. Et donc, ça nécessite en fait de prendre en compte 3 façons de ne pas voter. Je m'explique. Je ne vote pas d'abord si je suis de nationalité étrangère. Or, on connaît, grâce au recensement, la proportion de salariés étrangers par catégorie socio-professionnelle, y compris à 2 chiffres. Je peux ne pas voter si je suis de nationalité française, mais que je ne suis pas inscrit sur les listes électorales. Et je peux ne pas voter si je suis inscrit sur les listes électorales, mais que je décide de m'abstenir. Et donc, j'ai construit une estimation de la non-participation électorale. Donc le tableau est assez facile à comprendre. Si on prend les agents de service de la fonction publique, on a 2,8% qui sont de nationalité étrangère. Donc c'est essentiellement notamment les ASEM dans les écoles, mais passons. Il y a 5% des 97,2% qui restent, qui pourraient être inscrits, qui ne sont pas inscrits, et parmi ceux qui sont inscrits, il y a 6,5% d'abstention constante, c'est-à-dire de ces agents de service, qui ne se déplacent à aucun tour des élections. Et tout de suite, quand on prend en compte ces différentes dimensions, on a des écarts de participation qui explosent, qui sont beaucoup plus élevés. On s'aperçoit par exemple que sur 100 agents de service de la fonction publique, il n'y en a que 13,7 qui ne vont absolument pas participer à la séquence de 2012. Et à l'inverse, chez les personnels des services directs aux particuliers, dont 12,1% sont de nationalité étrangère, cette non-participation, pour une raison ou pour une autre, est de l'ordre de 27%. Pareil, chez les ouvriers, les proportions varient de 20% chez les plus qualifiés des ouvriers de l'industrie à près de 40% pour les ouvriers les moins qualifiés de l'artisanat. Donc ça m'a semblé être un indicateur intéressant, puisque finalement, la politique, d'une certaine manière, le fait de voter, c'est aussi un moment où se concrétisent des débats, des enjeux auxquels appartiennent les enjeux liés autour du travail. Et il y a des catégories socioprofessionnelles entières qui travaillent en France et qui voient leur poids dans le débat public assez largement minoré du fait de ces différentes sources de non-participation. Ce que je veux dire, par exemple, c'est que si on regarde le différentiel de participation, simplement comme on le regarde d'habitude entre les cadres et les ouvriers, il apparaît peut-être de 5 ou 10 points. Quand on prend en compte ces différentes dimensions, c'est un écart qui est tout de suite beaucoup plus important, puisque par exemple, en moyenne, 10% des cadres sup qui travaillent en France ne participent pas au scrutin, et on est à 40% pour les ouvriers non qualifiés de l'artisanat. Si bien que les cadres sont moins nombreux que les ouvriers ou les employés pris isolément dans la population active, simplement du fait de cette surparticipation, leur voix pèse davantage lors des élections. Alors, je voulais aussi insister sur un élément, c'est que la hiérarchie entre les ouvriers et les employés n'est absolument pas parfaite. Certes, en moyenne, les employés votent plus que les ouvriers, mais il y a des catégories d'employés qui votent moins que certaines catégories d'ouvriers. Alors je prends l'exemple de l'élection présidentielle, par exemple, on voit que les employés de commerce, qui sont 12% à ne pas voter aux élections présidentielles, sont plus souvent abstentionnistes, et significativement plus souvent abstentionnistes, que les ouvriers qualifiés de type industriel. Alors, il y a la question des personnels des services au particulier, mais j'y reviens tout de suite. Et donc, on voit bien qu'on retrouve, du point de vue de la participation électorale, des clivages qui traversent la frontière employé-ouvrier, mais qui avaient été déjà montrés quand on s'intéresse au salaire moyen d'un certain nombre d'employés, qui est beaucoup plus faible que le salaire moyen d'un certain nombre d'ouvriers, ou pour un certain nombre d'autres indicateurs. Donc, c'était le premier résultat sur lequel je voulais insister, les importantes inégalités de participation au sein des classes populaires. Second résultat, il me reste 5 minutes, le poids des caractéristiques liées au travail. On sait que la qualité de l'insertion sur le marché du travail, ça fait partie des clivages qui passent au sein des classes populaires, et je voudrais montrer la manière dont le fait d'être intégré solidement, pour le dire rapidement, dans un collectif de travail institué, favorise la participation politique au-delà des variables sociodémographiques classiques. D'abord, on a beaucoup de monde dans l'enquête et on a la chance d'avoir le type de contrat de travail, ce qui n'est pas le cas dans toutes les enquêtes. Et l'idée générale, c'est que au sein des catégories socioprofessionnelles à deux chiffres, donc même à un niveau assez fin, quand on a assez de monde pour regarder la différence entre les salariés qui sont en CDI et les salariés qui sont soit en CDD, soit en intérim, on s'aperçoit qu'il y a une très forte différence de participation. Juste un exemple, 84% des agents de service de la fonction publique qui sont fonctionnaires vont voter aux élections, 73,8% de ceux qui sont en CDD ou en intérim. Pareil chez les employés de commerce, je prends un autre exemple, 79% de participation aux deux tours de la présidentielle pour les CDI, 69% pour ceux qui sont en CDD ou en intérim. Les seuls pour qui ça marche pas, c'est les personnels des services directs aux particuliers. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que pour les employés des services à la personne, le contrat de travail n'est pas un bon indicateur de la place dans l'espace social. En fait, voilà, toutes les assistantes maternelles sont en CDI, toutes les femmes de ménage au domicile des particuliers sont en CDI ou presque. C'est absolument pas un indicateur de la précarité. J'ai pas le temps, mais ce que je peux vous dire, c'est que évidemment, on pourrait dire que ce résultat dit pas grand-chose, puisque on sait que le type de contrat de travail est lié à l'âge. C'est les jeunes qui sont en emploi précaire, or les jeunes votent moins. Les moins diplômés qui sont en contrat précaire, or les moins diplômés votent moins. Donc là, je vous demande de me croire sur parole ou de regarder les tableaux de régression dans l'article, mais quand on contrôle toutes ces dimensions, il reste un déficit de participation aux différents tours des élections de l'ordre de 5 à 6 points, selon que l'on soit en contrat précaire ou en contrat à durée indéterminée. Donc voilà, type de contrat de travail. Deuxième élément, il me reste 2 minutes 30, parfait, c'est le fait que, à bien des égards, les ouvriers de l'industrie, ce qu'il reste des ouvriers de l'industrie, et à bien des égards, qu'ils soient qualifiés ou non, sont très participatifs aux élections, je ne sais pas si on dit participatif, en tout cas ils participent très souvent aux élections, et dans des proportions très voisines des plus qualifiés des employés, c'est-à-dire l'aristocratie employée dont je parlais tout à l'heure. Et à l'inverse, les personnels des services directs aux particuliers, qui, eux, figurent parmi les moins participatifs ou participants aux élections, ce qui n'apparaissait pas dans le premier tableau, puisque dans le premier tableau, en fait, on s'apercevait qu'ils étaient 9% à ne pas participer aux élections présidentielles, ce qui était quand même moins que les employés de commerce. Or, le fait est que les personnels de service aux particuliers sont âgés, en moyenne, beaucoup plus âgés que les autres catégories des employés, et on sait que l'âge a une forte influence sur la participation électorale. Et quand on contrôle l'âge, en fait, on s'aperçoit que c'est bien les employés des services aux particuliers qui participent le moins aux élections, qui s'abstiennent le plus que les employés de commerce, et presque autant que les ouvriers non qualifiés de l'artisanat. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ce résultat, c'est que d'un côté, on a certes des ouvriers de l'industrie qui sont dans un secteur en forte diminution, en forte tension, mais qui sont encore insérés dans des collectifs de travail, c'est le monde de la grande entreprise pour certains d'entre eux, tandis que, évidemment, les salariés des services à la personne travaillent seuls. Et ce que je dis là encore, je vous demande de me croire ou de regarder les tableaux de régression, subsiste en contrôlant les caractéristiques sociodémographiques. Autrement dit, si les employés de service au particulier votent moins que toutes les autres catégories d'employés et que bien des catégories d'ouvriers, c'est pas parce que ce sont des femmes, c'est pas parce que ce sont des immigrés, c'est pas parce que ce sont des non-diplômés. Quand on contrôle toutes ces dimensions-là, eh bien, ce déficit de participation demeure. Alors, je veux juste terminer sur un point, c'est que, en même temps que je fais ce travail quantitatif, je fais un travail de terrain sur des femmes de ménage qui sont embauchées par une grande entreprise de services à la personne française, mais qui interviennent au domicile des particuliers. Et j'ai fait pour l'instant une vingtaine d'entretiens, et le thème majeur des entretiens, quand on leur fait parler de leur travail, c'est la solitude au travail. Elles n'ont pas de contact, évidemment, avec des collègues, puisqu'elles interviennent au domicile des particuliers. Le seul contact qu'elles peuvent avoir, c'est effectivement les particuliers, si les particuliers sont présents au domicile pendant les prestations de ménage. J'ai pas le temps, donc je vous passe les détails, mais la restructuration de l'entreprise qui les embauche fait qu'en plus, elles n'ont plus de contact avec l'agence. Par exemple, ce qu'avait fait Christelle Avril, non pas sur les femmes de ménage, mais sur les aides à domicile, il y a une certaine sociabilité à l'agence, avec l'encadrement intermédiaire de l'agence. Là, il n'y a plus d'encadrement intermédiaire de l'agence. Tout se passe dans une ville de France qui est le siège social de la boîte, et tout est dématérialisé. Donc il n'y a plus de contact physique avec une agence, sauf une ou deux fois par an pour aller chercher des clés dans une boîte au sein de l'agence. Bref, il y a une solitude au travail pas possible. Et un syndicat est en train d'émerger, la CFDT pour ne pas le citer, et il émerge au bout de plusieurs années, au moment où une salariée de cette entreprise, mais qui n'est pas femme de ménage, qui est standardiste sur la plateforme d'appel qui met en relation les particuliers et les femmes de ménage, eh bien, essayait depuis plusieurs années de monter une section CFDT, et la section finit par réussir à se monter lorsque, pour nettoyer les locaux du siège de cette entreprise, le nom de l'entreprise en question, mais les mêmes salariés tous les matins, 2 heures sur le lieu de travail pour nettoyer les bureaux. Elles sont 5 dans l'équipe, elles ne se voient pas vraiment pendant le travail parce que chacune a sa pièce, etc. Mais elles discutent avant, elles discutent après. Et les premières membres du syndicat du côté des femmes de ménage, c'est 3 de ces 5 femmes-là. Donc il y avait tout ça qui faisait écho à ces résultats quantitatifs. Et pour conclure tout à fait, ce qui me paraît important, c'est que pour revenir au sens caché que j'évoquais au début, c'est que certes, bien sûr, le niveau d'éducation augmente, certes, cette extraversion par la fréquentation de l'école est un facteur qui favorise la participation, mais les dynamiques du marché du travail, et notamment le fait que dans le bas de la structure des emplois, les emplois dont le nombre augmente le plus rapidement sont des emplois où on travaille seul assez fortement, ou en tout cas sans collègues, ou dans des collectifs de travail très faiblement institués, eh bien, vient au contraire amoindrir ces bénéfices qu'on pouvait attendre de l'ouverture scolaire. Voilà, merci beaucoup.
C'est la dérivée du président. J'ai même pu m'éloigner de ma montre sans inquiétude. Donc on enchaîne, si j'ai bien compris les règles du jeu. T'as besoin de l'écran aussi, toi, Claude.
Oui, mais oui.
C'est pas que je te fasse pas confiance, mais finalement.
Bien. Donc, la rigueur horlogère de Camille va me contraindre à être aussi rigoureux. Le thème que j'ai choisi de traiter devant vous, donc vous voyez le titre, attitude politique et sentiment d'injustice, nouvelle forme de l'indignation sociale. C'est le produit d'une ANR sur le sentiment d'injustice qui avait été la perception du sentiment d'injustice sur un échantillon de 4000 résidents français qui était coordonné donc par le CMH. Pacte et GEMA, c'est où il m'avait demandé de prendre en charge la dimension politique de cette affaire. Le point de départ est le suivant. Donc, puisqu'il fallait prendre en charge la dimension politique, je me suis dit, je vais regarder ce que ce sentiment d'injustice, tel qu'il est perçu dans la société française, a à faire avec le positionnement sur l'axe gauche-droite, de façon tout à fait simple. Or, vous le savez, l'axe gauche-droite est construit historiquement dans des circonstances que je ne rappellerai pas ici, au moment de la Révolution, mais surtout s'est articulé sur la question de l'injustice. Et de façon usuelle, par exemple, comme c'est Norberto Bobbio, on soutient volontiers que la distinction entre droite et gauche découle d'un jugement positif et négatif porté sur l'idéal d'égalité, qui dépend lui-même de la différence de perception de ce qui rend les hommes égaux ou inégaux. De façon un peu plus approfondie, Michel Hastings distinguait récemment une droite encline à considérer les inégalités comme justifiables, soit en raison d'un ordre naturel hiérarchique, soit des inégales performances ou mérites de chacun, et de l'autre, une gauche plus soucieuse de voir dans les inégalités les effets d'une question sociale qu'il faut résoudre. Et donc, au vu de ces classiques, de ces appréciations classiques de l'axe gauche-droite, je m'attendais à trouver un sentiment d'injustice qui décroissait de la gauche, et même de l'extrême gauche, à la droite, et même à l'extrême droite. Or, les données montrent que ça ne se passe pas du tout comme ça, puisque le dit sentiment d'injustice, comme vous le constatez, certes, il décroît un peu de l'extrême gauche, disons au centre et à la droite, mais il connaît une remontée en France aujourd'hui tout à fait considérable dans les positions les plus à droite de la société française, qui pose une question. Je ne m'attendais pas à ce que les Français les plus révoltés par l'injustice se trouvent à l'extrême droite du spectre politique. Je m'attendais plutôt à les trouver à l'extrême gauche et ne m'attendais surtout pas à avoir une extrême droite aussi haute que cela. Et donc c'est ce que j'ai cherché à explorer parce qu'évidemment, pour faire le lien avec ce qui nous rassemble aujourd'hui, le sentiment d'injustice, c'est un puissant facteur de politisation. Et qu'il était tout à fait intéressant de voir justement quelles étaient les modalités et comment s'articulait cette appréciation portée sur la société française et le sentiment d'injustice en tant que tel. Alors, parce que j'ai été... la question c'est ça, aujourd'hui diriez-vous que globalement la société française est une société très injuste, assez juste, assez injuste, très injuste, et on fait la moyenne et on trouve ça. Alors, évidemment, la première réponse peut être de dire... Puisque c'est notamment ce qu'on trouve souvent souligné en sciences politiques, finalement, est-ce que l'axe gauche-droite, c'est la preuve que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui ? Est-ce que ça ne fait pas partie de ces indicateurs qui ont eu un sens dans le passé, mais qui n'en ont plus ? Et effectivement, c'est ce que nous disent les Français. Quand on les interroge sur ce sujet, de plus en plus, ils considèrent que cet axe gauche-droite n'a plus de sens aujourd'hui. On a eu une montée progressive de cette appréciation des années 80 aux années les plus récentes. En 2011, une majorité de Français pense que cet axe gauche-droite n'a plus de sens aujourd'hui. Ce qui pourrait effectivement résoudre notre interrogation. Sauf que, en même temps qu'ils disent cela, ils n'ont aucune difficulté eux-mêmes à se classer sur l'axe gauche-droite. C'est un résultat classique dont j'ai voulu vérifier de nouveau la pertinence ici. Si on dit effectivement que l'axe gauche-droite n'a pas de sens, mais qu'on n'éprouve pas de difficulté pour s'y classer soi-même, ça veut dire que donc il garde probablement un certain sens. Voilà ce qu'on observe par exemple. Si on croise l'axe gauche-droite avec la proximité partisane, vous constatez de façon tout à fait régulière que quand on est à l'extrême gauche, position 1 et 2, on se sent proche du front de gauche. Quand on se situe sur les positions 3 et 4, on se sent proche du Parti socialiste. Quand on se situe au centre, ça c'est un résultat classique de sciences politiques depuis Lindon, Veil et le Marais, la première position qui vient, c'est qu'on n'a aucune préférence politique, tant pis pour le centre en tant que tel. Quand on est à droite, on se disait proche de ce qui s'appelait à l'époque l'UMP, et à l'extrême droite, proche du Front National. Donc on a, de ce point de vue-là, une régularité tout à fait... intéressante et mesurée par les coefficients idoine que je vais vous passer. Qu'en est-il ensuite pour vérifier la même perspective du lien entre ce positionnement sur l'échelle gauche-droite et le vote à la présidentielle de 2012 ? Là encore, on constate une jolie régularité. Quand on se met à l'extrême gauche, on vote d'abord Mélenchon, à gauche d'abord Hollande, au centre d'abord on s'abstient, à droite d'abord Sarkozy, à l'extrême droite d'abord Le Pen. Donc, c'est un résultat classique. Et globalement, sur le total, il y a moins de 15% des Français qui refusent de se placer sur l'axe gauche-droite. Plus de 85% d'entre eux s'y classent. Donc, il continue à fonctionner, et donc, ce n'est pas là qu'il faut trouver la raison de l'étonnement qui nous saisit tous quand on constate, enfin, je pense que c'est à l'extrême droite que l'injustice est, le sentiment d'injustice est le plus élevé aujourd'hui. Donc, il faut trouver autre chose et regarder un certain nombre des indicateurs qui ont été posés à l'occasion de cette enquête. Alors, certains sont tout à fait compatibles avec la thèse classique, à savoir que le rejet des inégalités sociales est bien plus élevé à gauche qu'à droite. Je vais vous en présenter quelques-uns. L'estimation de la force des inégalités de revenus, elle est plus forte à l'extrême gauche. On a une remontée à l'extrême droite, mais elle est quand même plus forte à l'extrême gauche. L'adhésion au principe d'égalité de revenus, lui aussi, il est plus fort à l'extrême gauche, donc tout ça est assez classique. On aura toujours un ressaut à l'extrême droite, j'y reviendrai plus loin, mais on est loin du premier graphique que je vous ai présenté, où c'était l'extrême droite qui l'emportait sur l'extrême gauche. L'acceptabilité des inégalités de revenus en cas de mérite individuel différent, qui est une des thèses classiques de la droite, eh bien, elle le demeure. Vous voyez qu'à gauche, on n'accepte pas ces inégalités de revenus, même si le mérite individuel est différent. À droite, on l'accepte beaucoup plus, avec des variances sensibles. Et donc, si on regarde également les politiques publiques, on est toujours sur ce premier axe. On va voir tout à l'heure que c'est un premier axe. Les inégalités sociales, choisies comme problème le plus important pour la France aujourd'hui, vous voyez que c'est une idée qui est très répandue à l'extrême gauche et qui décroît progressivement au profit d'autres propositions du type l'environnement, la croissance, etc. Donc là, on est sur le schéma classique. On est sur le schéma classique de relation entre opinion et axe gauche-droite. On a bien une extrême gauche et une gauche qui sont beaucoup plus révoltées, d'une certaine façon, par les injustices que la droite et l'extrême droite. Si on regarde également l'indépendance des chances de réussite par rapport à l'origine sociale, eh bien, vous voyez qu'à l'extrême gauche, cette indépendance est jugée faible, alors qu'à droite, on considère que effectivement, cette indépendance est forte. Et donc là, on est toujours dans le même registre que celui que j'évoque dans cette partie. La nécessité de la redistribution des richesses, selon la position de l'axe gauche-droite, sur l'axe gauche-droite, de la même façon, vous constatez que, classiquement, l'extrême-gauche considère que cette redistribution des richesses est beaucoup plus nécessaire que ça n'est le cas à droite. Ça s'observe sur l'axe gauche-droite, ça s'observe aussi sur les votes au moment de l'élection présidentielle, selon un schéma tout à fait classique, de Mélenchon à Sarkozy, cette nécessité diminue, elle remonte chez Marine Le Pen, le ressaut à l'extrême droite qu'on voit dans cette dimension, mais qui est encore tout à fait limité ici. Donc on voit là toute une série d'indicateurs qui, me semble-t-il, s'inscrivent sur la même dimension, la dimension classique, qui veut que, à gauche, l'injustice soit considéré comme un objectif prioritaire, alors qu'à droite, ça n'est pas le cas. Mais évidemment, ça ne peut pas expliquer notre graphique liminaire, et donc il faut aller voir autre chose, et aller voir une deuxième dimension que j'ai appelée l'émergence de nouvelles formes d'indignation sociale, qui, elle, présente un profil inverse, comme vous allez le constater. Alors, le premier sujet, évidemment, c'est la question de l'immigration. L'immigration est considérée très clairement comme un facteur d'injustice par une partie importante des échantillons aujourd'hui. Voyez ici l'adhésion à cette idée selon laquelle les opinions prennent le travail des gens nés en France, quels que soient tous les travaux scientifiques qui nous disent que c'est faux. Ça n'influence pas une partie de l'opinion qui montre très clairement plus elle occupe une position à droite, plus elle adhère à cette idée. Et évidemment, il y a là le sentiment d'une injustice, ce qui est important pour la démonstration que j'essaye de conduire. Deuxième élément, autre liaison entre l'immigration et l'injustice, l'adhésion à l'opinion. Les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale d'un pays. Là encore, l'INSEE nous a largement démontré que c'était faux, mais en tant que tel, il y a une adhésion, et une adhésion qui entretient le lien que vous voyez avec l'axe gauche-droite. L'autre domaine que j'ai voulu regarder, c'est la question des services publics et des droits sociaux. Alors, il y avait une question qui nous avait paru intéressante sur le sentiment d'éloignement des services publics selon la position sur l'axe gauche-droite, puisqu'on dit qu'une partie de la population française se sent coupée, et souvent à juste titre, des services publics pour des raisons d'éloignement, etc., et qu'elle en conçoit assez légitimement une rancœur. Bon, on voit que c'est très fort à droite, ce sentiment est beaucoup plus fort à l'extrême droite. Pour autant, on n'a pas là une relation homogène qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc cet indicateur ne marche pas bien, je ne le retiendrai pas dans les échelles finales. En revanche, il y avait une question sur la connaissance. Est-ce que vous connaissez des avantages injustifiés en matière de prestations sociales ? Est-ce que vous avez des cas, vous connaissez des gens, à qui on a de façon injustifiée donné des prestations sociales alors qu'elles n'y avaient pas droit ? Et là, de nouveau, vous constatez qu'on retrouve bien une liaison à peu près homogène et régulière quand on va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y a dans tout cela, évidemment, de quoi générer des sentiments d'injustice. C'est pour ça que ces opinions méritent d'être signalées à ce stade. Autre sujet très sensible, la question du RMI devenu RSA. Avec une alternative, est-ce que le RSA n'incite pas assez les gens à chercher du travail, ou bien est-ce qu'il donne le coup de pouce qui peut aider à s'en sortir ? Là, vous voyez, la relation est très forte. 10% des Français qui se situent à l'extrême gauche pensent que le RSA n'incite pas assez les gens à chercher du travail, mais ce taux se situe à 70% sur les positions 9 et 10 de l'axe gauche-droite. Donc il y a là des opinions qu'on connaît, mais qui tentent à s'être un peu systématisées et accrues, semble-t-il, sur la dernière période. Alors, ça nous ramène donc à la courbe liminaire, dont on essaye de rendre compte. Il m'a semblé que les deux séries d'opinions qu'on a vues pouvaient être conçues comme se superposant et être de nature à expliquer cette courbe en U asymétrique qu'on cherche à expliquer. Et donc, j'ai cherché à mettre en évidence l'existence de deux échelles d'attitude. Je n'en reviens pas sur les échelles d'attitude, qui sont donc un outil inventé par Adorno en son temps et qui a largement depuis montré sa pertinence en matière d'explication des comportements politiques. La première des parties et les premières opinions que je vous ai décrites par rapport à la liaison classique entre sentiment d'injustice et ex-gauche-droite, eh bien, elle est bien restituée par une échelle qui est une échelle de rejet des inégalités sociales. Avec, je crois qu'il y a 8 questions dedans. Les revenus devraient être égaux en France, il ne devrait y avoir aucune différence. D'accord. Pourquoi y a-t-il en France des gens qui vivent dans le besoin ? La réponse à retenir dans ce cas-ci sur cette échelle, c'est parce qu'il y a trop d'injustice dans notre société. Si vous deviez choisir entre les 3 termes de devise de la République française, auquel accorderiez-vous le plus d'importance, c'est égalité contre ceux qui prennent liberté, voire fraternité. Dans cette liste, quel est le problème qui vous paraît le plus important aujourd'hui pour la France ? Les inégalités sociales, c'est le graphique qu'on a vu, contre ceux qui préfèrent l'environnement, le chômage, l'immigration, etc. Il faut redistribuer toutes les richesses de façon complètement égalitaire. C'est la position 10 sur une échelle en 10, versus ceux qui disent qu'il ne faut pas du tout redistribuer les richesses. Un exemple, ça c'est quelque chose qui se fait parfois maintenant dans les enquêtes et que je trouve intéressante, qui est, plutôt que de poser des questions un peu théoriques, de fournir des exemples pratiques. Vous le voyez là, et à ce moment-là, ceux qui répondent qu'ils n'ont pas eu les mêmes chances et leur différence de situation professionnelle est vraiment injuste, seront retenus dans cette échelle. des différences de revenus sont acceptables lorsqu'elles rémunèrent des mérites individuels différents. Pas d'accord. Selon vous, est-ce que la réussite des gens dépend de leur origine sociale et reprendre la réussite sociale est jouée d'avance et dépend seulement de l'origine sociale? Et enfin, certains pensent qu'aujourd'hui, l'école donne la même chance de réussite à tout le monde. Pas d'accord avec cette idée-là. Il se trouve que ce sont, grosso modo, les mêmes interviewés qui donnent ce type de réponse. Et donc, ça permet de construire une échelle, puisque ça, on ne peut jamais le savoir a priori, on le voit a posteriori en vérifiant que ce sont, qu'il y a bien une superposition et que ce sont bien les mêmes individus qui donnent les mêmes types de réponses. Donc, ça permet de construire une échelle de rejet des inégalités sociales en ajoutant, d'une certaine façon, les notes obtenues à ces différentes réponses et qui entretient le lien suivant avec la position sur la gauche-droite, c'est le lien classique. C'est-à-dire, quand on va de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, même s'il y a un petit ressaut à l'extrême-droite, eh bien, il y a une décroissance de ce rejet des inégalités sociales. Ce rejet des inégalités sociales est maximum à l'extrême-gauche, conformément à ce qu'on pouvait attendre. Et il est minimum, non pas tout à fait à l'extrême-droite, mais en tous les cas dans les positions 8. Voilà. Mais, évidemment, cette échelle, elle est intéressante. Elle ne permet pas à elle seule de rendre compte du degré d'injustice de la société française. Pour en rendre compte, il faut lui superposer une deuxième échelle. Une deuxième échelle que j'ai appelée échelle d'égotisme économique. Pour ne pas jouer dans la dimension morale de l'égoïsme, parce que ce n'est pas le sujet, et qui unit quatre questions. Au sujet des RSA, pensez-vous que cela n'incite pas assez les gens à chercher du travail ? Sur une échelle de 1 à 10, diriez-vous que les pouvoirs publics gaspillent ou font un bon usage des impôts? Évidemment, gaspillent les impôts. Et puis, les deux opinions sur les immigrés que j'ai présentées tout à l'heure. Là aussi, on a une échelle, c'est-à-dire que soit on répond à ces questions, soit on n'y répond pas, mais les individus se clivent très clairement là-dessus. Et quand on regarde le lien entre cette échelle et l'axe gauche-droite, eh bien, on obtient ceci. C'est-à-dire que plus parce qu'il y a là, évidemment, je vais y revenir pour terminer, une perception de l'injustice, mais plus on partage cette idée, plus on a une note élevée sur cette échelle, plus, effectivement, on occupe une position à droite. Et donc, à ce moment-là, si on superpose, pour le coup, ces deux échelles, celle-ci et celle-ci, sans que ce soit quelque chose d'arithmétique, on comprend in fine, qu'on obtienne bien quelque chose, un graphique global de sentiment d'injustice de ce type-ci. Et donc, ce qui tend à dire que, eh bien, et j'en termine là, puisque je crois que j'arrive au terme, eh bien, ça montre bien, me semble-t-il, que face à l'indignation et au rejet classique des inégalités sociales en France aujourd'hui, il y a une nouvelle façon, deux nouvelles formes d'injustice qui doivent être traitées, hein, qui doivent être prises en compte en tant que telles, et qui est de nature à expliquer que l'injustice, ça n'est plus, le sentiment d'injustice, c'est aujourd'hui quelque chose qui est aussi très présent sur des gens qui vont se placer à l'extrême droite et qui vont voter en cohérence avec cela. Et je pense que c'est une réalité qu'il faut aussi prendre en compte parce qu'elle explique un certain nombre de phénomènes électoraux récents. Merci beaucoup.
Merci à vous deux. Bon, je vais essayer de réagir en une minute et demie et d'introduire le débat en un peu plus. Il est évident que le croisement des deux interventions que j'avais le privilège de lire avant et un, oui, c'est vrai.
C'est comme au CA,
mais ça marche mieux. Oui, j'en vois qui rigolent, mais pas tous. Il y a que ceux qui connaissent les difficultés. D'un côté, tu l'as présenté comme tel, on est bien dans le domaine des institutions, mais sur du dur. De l'autre, et c'est ton titre, on est dans le domaine du sentiment et de représentation. Je ne dis pas que c'est moins dur, c'est autre chose. Il s'agit bien dans les deux cas, je crois qu'on a bien à l'horizon le vote ou l'absence de vote, et les déterminants, pardonnez-moi le terme, du vote ou du non-vote, et de quel vote. et par là même du rapport à la politique, mais je reviendrai sur politique, puisque votre sujet c'est quand même la politisation. Dans les deux cas, bon, je suis historienne, pour ceux qui ne le sauraient pas, bon, on a fait longtemps avec Michel Pigenet, qui est historien aussi, un séminaire à peu près sur le même sujet. On avait un désaccord constant sur l'usage de termes de domination. Et évidemment, Olivier Schwartz était venu s'en expliquer avec nous. Et Michel étant résolument du côté de la domination et moi ayant un problème avec ce terme-là, parce que je m'interroge toujours, mais je sais que ceux qui usent de domination aussi, sur les formes de subversion qui fait que le dominé se construit en sujet. Alors dans quelle mesure, mais on l'entend bien dans la diversification que tu opères, la non-participation peut être une manière de subvertir la place assignée ou le rôle assigné, et dans quelle mesure le fait de ne pas se trouver à la place où on classerait spontanément constitue une forme de subversion. Je crois que ce n'est pas majeur dans vos interventions, c'est simplement pour dire que le... je crois que tous les deux, vous nous invitez, mais c'est évidemment, pardonnez-moi, c'est presque du café du commerce, vous nous invitez à être très, très attentifs à l'usage des catégories, bien sûr, mais plus encore de ce qui n'est pas nécessairement une catégorie, mais qui se prétend être une catégorie. Bon, classe populaire, catégorie ou pas, et dans quelles conditions est-ce que ça peut en être une ? Gauche, catégorie ou pas, et dans quelles conditions est-ce que ça peut en être une ? C'est vrai que la solution, je dirais presque de facilité pour la gauche, c'est de travailler sur les présidentielles, parce que là, on a des noms. Alors, mais est-ce que ça nous permet pour autant d'avoir une définition ? Et évidemment, vos deux approches sont, je dirais, essentielles du point de vue de notre rapport à la politique, du rapport à la politisation de tous, c'est qu'on est là sur deux termes et ou catégories qui sont des enjeux politiques absolument majeurs dans la situation où nous nous trouvons. Donc il est important de savoir de quoi l'on parle, qui en parle, pourquoi on en parle. Et on entend bien en vous écoutant que la question de... qu'on ne saurait être dans une globalité ni de la gauche, ni des inégalités. Alors je vais revenir sur le rapport inégalité-gauche, et moins encore évidemment de classe populaire. Ce que je trouve évidemment perturbant, et c'est ce que je mets en débat, c'est qu'en t'entendant, on a une confirmation extrêmement affinée et extrêmement intéressante. Un certain nombre de déterminants sociaux qui, parce qu'ils sont multiples, ne doivent pas être pris sous une forme linéaire et sont beaucoup plus complexes, tu le montres bien, que ce qu'on a tendance à dire, même si au total, ça confirme quand même... globalement, ce qu'on pensait savoir, la centralité du travail, que je trouve évidemment passionnante dans ce que tu nous dis, la centralité du collectif, et alors je trouve que ce que tu nous as présenté en conclusion et en quelques instants est d'un très grand intérêt, parce que bien sûr, tous les deux, sous des formes différentes, par l'institution et l'acte de voter, ou par l'opinion produite sur, vous nous parlez bien d'individus, et vous nous parlez bien d'individus et de leur rapport à la politique, on voit bien dans ton cas, mais peut-être moins dans le tien, c'est, à mon avis, c'est l'élément d'opposition centrale, qu'il faut qu'on travaille sur les médiations qui font aujourd'hui politique par d'autres formes, que la question de la syndicalisation, on le sait bien, est une question majeure, et la manière de faire groupe, de faire collectif par le travail, mais il n'y a pas de déterminant, il faut quand même construire quelque chose, et le rôle de l'acteur politique et de la circonstance, ça me paraît absolument passionnant. Et alors inversement, quand on t'écoute, tu n'y es pour rien, Claude, c'est évidemment ce dont tu nous parles, donc rien de personnel. Le fait qu'on travaille sur les sentiments et la façon de se situer par rapport à, on peut supposer que ton avant-dernière courbe recoupe peu ou prou sociologiquement ce dont tu nous parles, mais on voit tout aussi bien que la dernière des courbes, donc celle sur les nouvelles formes, les nouveaux sentiments d'injustice qui mettent en mouvement sur des formes qui nous inquiètent, sont très vraisemblablement exprimées par des acteurs qui ne sont pas concernés ni par leur insertion dans le territoire, ni par leur insertion dans le travail, ni par leur pratique collective, et qu'on est bien dans des représentations. Je pense évidemment à la question de l'immigration, je pense aux chômeurs, enfin je pense à tout ce que tu nous as dit. Donc, évidemment, vous, si on additionne, vous montrez bien qu'il y a deux. Mais bon, comment on articule tout ça? Je pose la question à tout le monde. Je vais peut-être donc encore peut-être un mot. Oui, peut-être un mot sur la gauche, mais ce n'est pas votre sujet. Mais quand même, oui, je connais évidemment les analyses qui amènent à corréler le sentiment d'injustice et la gauche, mais en même temps, je m'excuse d'être historienne, mais si on a une approche historique de la construction sociale et sociopolitique, d'un point de vue historique, de l'usage de la catégorie de gauche en politique en France, ça va donner quelque chose de tout à fait différent. Je m'explique simplement deux mots et je vous donne la parole. Le Front populaire, on est en plein dans l'illustration de la thèse, simplement pendant le Front populaire, personne ne parle de gauche. On parle d'extrême droite, mais d'ailleurs on ne parle pas tellement d'extrême droite parce qu'on parle de fascistes, et en tout cas on ne parle pas de gauche. On parle de Front populaire et on parle de Rassemblement populaire, donc ce n'est pas une catégorie qui fonctionne. Et pourtant, ça devrait en être l'illustration parfaite. Et inversement, la catégorie se met à fonctionner centralement dans le discours et l'action politique des acteurs politiques au sens le plus classique, en 1945 et après 1945, sur des bases qui sont très fortement institutionnelles et qui renvoient à des données politiques au sens le plus étroit. Mais je ne mets aucun caractère péjoratif dans mon usage d'étroit. Je m'arrête là momentanément. Je vous donne la parole à vous deux ou à la salle, ou je ne sais pas comment vous vous êtes organisés jusqu'alors. Donc,
on va prendre une série.
Voilà, d'accord. Et puis comme ça, vous.
Merci beaucoup.
Bon, alors je ne vais pas faire le coup, il n'y a que la première qui, etc.
Bonjour. Moi, j'ai une question pour Camille. Alors, j'ai loupé, je suis désolée, le tout début de ta présentation, mais j'avais quand même une... Alors, je dirais peut-être une bêtise, hein, tu m'arrêtes si, en prenant en route, j'ai mal compris. Donc, d'après ce que j'ai compris, une de tes hypothèses, c'est que l'augmentation du niveau scolaire des milieux populaires, en particulier des ouvriers, où tu dis qu'on a 20% maintenant de bacheliers, devrait changer leur relation à la politique et au vote, grosso modo. Et moi, j'ai une petite question sur justement cette augmentation du niveau scolaire captée par le pourcentage de bacheliers. Et en fait, ce que je me dis, c'est que le terme de bachelier et le bac a beaucoup évolué, c'est beaucoup diversifié, parce que finalement, dans les bacheliers, maintenant, on a des bacs pro, des bacs technologiques et des bacs généraux, ce qui fait que ce n'est pas forcément la même socialisation ou la même éducation aux politiques. Et ça renvoie un peu au contenu de l'éducation. Finalement, qu'est-ce qui, dans l'éducation scolaire, va entraîner une appétence ou une sensibilisation aux questions politiques? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être l'histoire, la géographie, la philosophie, peut-être pas. Hein, c'est peut-être juste d'être dans l'institution qui va changer cette relation en changeant justement la relation aux institutions. Mais finalement, c'est un peu la question que je me posais, c'est... quelle est l'influence réelle de cette scolarisation dans une diversification de la réelle éducation ou socialisation scolaire?
Donc on prend plusieurs questions, si j'ai bien compris.
Question pour Camille aussi, pour faire corporate, comme tu dis. On t'avait entendu sur cette enquête dans sa dynamique quantitative, et là tu croises dans la présentation que tu as faite à la fois l'analyse quantitative forte et en même temps ton terrain actuel et ethnographique auprès de ces femmes de ménage. Ma question, elle rejoint la question des méthodes de ce matin. C'est comment est intervenu, si on rentre un peu dans la boîte noire du chercheur, le terrain ethnographique par rapport à ses premières conclusions? Est-ce que c'était initialement deux objets disjoints, enfin, pour parler revisite aussi des enquêtes ou la façon dont on fait plusieurs enquêtes et où on peut les relier? Est-ce que c'était deux terrains disjoints? Est-ce que l'ethnographie ou une enquête, je dirais, après on rentre pas dans ce qu'on appelle ethnographie ici, mais une enquête un peu, enfin, quali est différente de celle que tu mènes d'habitude, c'est imposé comme un besoin pour répondre à certaines questions ouvertes par le Conti, ou est-ce que l'objet d'aujourd'hui t'a amené à revisiter ces questions comme ça? Non, parce que l'article que tu faisais paraître récemment, l'élaborer déjà. Enfin, donc, moi, j'avais envie de t'entendre sur cette complémentarité des deux approches, parce que je pense que c'est précisément, et tu as dû conclure un peu vite, l'enquête ethnographique qui a peut-être musclé, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais ce n'est pas habituel, on muscle d'habitude avec du Canty, mais là, pour le coup, musclé la conclusion forte et, à mes yeux, hyper intéressante de la focale des collectifs de travail pour expliquer la participation ou la non-participation électorale.
Peut-être tu réponds, parce que c'est quand même une question très...
Là, on peut faire un premier round.
Voilà. Je réponds rapidement. Sur la question du niveau scolaire des ouvriers, en fait, non, je le disais, c'était vraiment pas en y croyant, c'était plutôt de manière rhétorique dans l'introduction du papier et de la présentation pour dire que, en réalité, les catégories ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies, que, évidemment, même si les ouvriers, en fait, ça n'a pas de sens, en fait, presque ce que j'ai dit, de dire que les ouvriers sont 20% à avoir le bac aujourd'hui, alors qu'ils étaient 4% il y a 25 ans. Ça n'a pas de sens pour l'argument que tu as donné, puisque effectivement, en 85, il y a la création du bac pro, et que donc, effectivement, c'est massivement vers ces filières-là que vont les ouvriers, qui sont souvent des enfants d'ouvriers. Et puis, par ailleurs, parce que même s'ils sont 20%, ils demeurent quand même ceux qui vont le moins souvent au bac. Et donc, dans la hiérarchie, le diplôme étant un bien positionnel, n'est-ce pas, ils restent quand même, de toute façon, dans le bas de la hiérarchie. Et puis, je disais aussi le diplôme, parce que, quand même, quand on lit les travaux qui parlent du sens caché, moins quand on lit ce qui ne m'était jamais arrivé, je l'ai lu pour la première fois il n'y a pas très longtemps, j'ai honte, mais Gaxi lui-même, c'est qu'en fait, on fait quand même pas du diplôme en tant qu'objet qu'on peut fétichiser, mais enfin du fait d'avoir fréquenté l'école, et le fait pour les classes populaires de l'avoir peu fréquenté, une des explications toutes faites de ce peu d'intérêt ou de ce sentiment d'illégitimité à se saisir de la politique. Donc non, j'en fais pas du tout quelque chose de décisif ou plus décisif qu'autre chose, en tout cas plutôt un élément du décor qui invite à justement poser la question de ce qu'est aujourd'hui les contours des espaces populaires. Sur la question justement du travail ethnographique et de l'enquête statistique, en fait c'est quelque chose que j'essaye toujours de concilier. Là ça fait partie, en fait, les deux travaux d'un même programme de recherche, en fait, puisque donc dans l'optique de mon HDR j'essaye de travailler sur cette question des classes populaires en France et en Europe. Et du coup, si tu veux, peut-être que les premières exploitations statistiques, le fait, par exemple, on le sait, voilà, les services à la personne, leur nombre et leur part a augmenté. Tout le monde le sait, mais quand on prend conscience que même avec les catégories telles qu'elles sont, on peut montrer qu'en 25 ans, c'est des effectifs qui ont doublé ou qui ont été multipliés par 2,5 et qui concernent maintenant, quand on n'a que le travail officiel mesuré par l'INSEE, ça concerne 2,5 millions de salariés. C'est vrai que je me suis dit que, quitte à choisir un terrain pour illustrer ce qu'étaient ces recompositions et ces classes populaires contemporaines, avec plein de guillemets, ben je voulais travailler sur cette question des salariés des services à la personne. Il y a eu l'opportunité de faire une enquête financée sur les employés non qualifiés des services, et donc j'ai choisi de travailler sur les femmes de ménage, d'abord parce que c'est une question qui m'intéressait, parce que Christelle Avril venait de faire un travail formidable sur les aides à domicile, donc j'allais pas aller réinterroger des aides à domicile pour voilà. Et puis souvent, parce que dans son livre, ce qui m'interpellait, c'est qu'elle comparait les aides à domicile aux femmes de ménage en donnant des statistiques issues des enquêtes emploi et en montrant qu'il s'agissait quand même, alors là, explorons à nouveau les catégories, qui étaient quand même, du point de vue des trajectoires, du point de vue des caractéristiques sociodémographiques, aussi un monde stratifié. En gros, ce qu'on peut voir, c'est que tout en haut des services à la personne, il y a quand même s'occuper des enfants. Au milieu, il y a s'occuper des vieux. Et tout en bas, il y a nettoyer. Et c'est très prégnant du point de vue des statistiques, c'est très prégnant du point de vue des représentations des femmes de ménage que j'interroge. Et pour conclure, pour terminer, sur le fait, tu disais un peu ironiquement, souvent c'est le Canty qui muscle le Cali. En fait, moi, dans mon expérience, c'est toujours le Cali qui a musclé mon Canty. C'est-à-dire que si je stoppe à mes tableaux de régression ou à mes tri croisés, bon voilà, j'ai mes femmes de ménage qui participent moins, toutes choses égales par ailleurs. Je dis qu'elles travaillent seules et que donc ça doit jouer, mais je ne démontre rien. Enfin, je fais des hypothèses. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment, donc le terrain, je l'ai commencé en octobre, il y avait vraiment voilà, le télescopage des deux en même temps avec j'assiste en fait à la création de cette section syndicale. Qui vraiment, voilà, en fait, au départ, il y a 2 ans, ils ont décidé que les femmes de ménage qui allaient nettoyer les locaux, c'était des femmes de ménage de l'entreprise. Et au départ, c'était presque un cadeau, parce que c'était du travail fixe. Et donc, il changeait les femmes de ménage qui bénéficiaient de ce cadeau, d'avoir 2 heures tous les matins au même endroit assurées, parce que le problème, c'est d'avoir suffisamment d'heures de travail quand on est femme de ménage, eh bien, il changeait tous les mois. Et en fait, ils ont changé leur fusil d'épaule au bout d'un moment, et c'est la même équipe de femmes qui fait ça depuis 3 ans. Et ouais. Comme par hasard, c'est au sein de ce collectif qui est en train de se passer quelque chose. Donc vraiment, il y avait au départ l'idée de faire les deux, et puis dans les résultats, les deux choses qui se télescopent.
Oui, non, c'était pour poursuivre le fil sur la question de le fait d'être dans des collectifs, enfin d'être dans un collectif au travail, là pour le coup. Je me demandais si sur les enquêtes quantitatives que je connais peu, et les enquêtes INSEE notamment, mais vous aviez aussi des moyens d'avoir des informations sur les collectifs, par exemple dans des quartiers, les collectifs dans les lieux de vie, pour les gens qui ne travaillent pas notamment, mais et donc cette idée de lien avec le voisinage, avec des collectifs, avec des liens communautaires, qui auraient un effet sur le fait de voter. Et du coup, votre exemple des femmes de ménage, c'est est-ce que c'est parce qu'elles se voient plus entre elles d'un coup qui produit le fait qu'elles font un syndicat, ou est-ce qu'il y en a une qui est syndiquée et qui amène toute cette question de l'organisation collective? Mais voilà un peu le type de question.
Oui, je me donne la parole. J'ai une question moi qui s'adresse à vous deux et qui est un peu dans la suite de ce que Daniel a commencé à dire concernant effectivement d'ailleurs un thème dont on a aussi parlé hier, hein, les intermédiaires de politisation, les médiations au fond, qui permettent d'expliquer les phénomènes que vous dont vous rendez compte. J'ai l'impression de parler dans le micro. Et donc pour Claude, c'est effectivement lui demander quelles sont ses hypothèses au fond sur cette émergence, cette montée en puissance de cette version de l'injustice ou de cette question de l'égotisme économique dont tu as parlé. Quels sont les vecteurs idéologiques, les vecteurs sociaux, les médiations non partisanes aussi, hein, qui permettent d'expliquer ces attitudes. Et puis, pour Camille, la question serait effectivement de revenir sur la question syndicale qui a été abordée par Daniel, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on a des données sur l'adhésion syndicale, la syndicalisation en général sur les groupes que tu as étudiés, et est-ce qu'elles correspondent au fond aux hypothèses que tu as commencé à formuler à partir du vote?
Vous aviez compris que on s'était réparti le travail avec Camille, il faisait l'infrastructure, je faisais la superstructure, mais évidemment tout ça se rejoint par rapport à la question que nous fait Laurent, en l'occurrence. La première raison, hein, de ce repli sur soi d'une partie de la population française qu'on voit bien dans cette affaire, c'est l'existence de situations de chômage, de situations de pauvreté qui s'étendent, avant même d'en arriver aux vecteurs idéologiques, etc. Bon, je pense que c'est ça la raison fondamentale. C'est ça la raison fondamentale qui constitue le terreau de ce à quoi on assiste depuis une vingtaine d'années, parce que ça n'était pas comme ça il y a 20 ans, hein, ça n'était pas comme ça. Et donc, il en ressort une logique qui est une logique de bouc émissaire, de chercher des responsables, des situations de difficulté auxquelles une partie de la population française est gravement confrontée, et de plus en plus depuis un certain temps. Moi, c'est d'abord là-dessus que j'ai envie de poursuivre les choses. Et d'ailleurs, si je devais continuer ce travail, ça serait justement toujours dans l'idée de rejoindre les deux perspectives, de regarder ces populations qui sont 8, 9, 10 sur cette échelle d'égotisme économique, quelles sont leurs positions sociales. Je suis persuadé qu'on a beaucoup de catégories populaires dedans. J'en suis persuadé. Bon, peut-être, faut regarder, j'en suis persuadé. Alors, il se trouve, sur la question du croisement des méthodes, que cette enquête était justement bien conçue en la matière, c'est-à-dire qu'à la fois on interrogeait sur un échantillon représentatif, etc. Mais on demandait aux gens si on pouvait les réinterroger derrière pour faire du qualitatif derrière. Bon, le problème, c'est que maintenant, c'est un peu long, parce que souvent, quand on regarde des enquêtes quantitatives, on se pose des questions, on se dit, mais pourquoi ces gens répondent ça comme ça? Et là, on rééprouve le besoin de Cali sur le mode, après tout, le plus simple, c'est d'aller leur demander directement et d'approfondir directement. Et moi, ça, c'est une formule à laquelle je crois beaucoup. Là, le problème, c'est que l'enquête, maintenant, l'espace s'est un peu étendu et qu'il faut faire ça un peu plus sur le coup. Mais c'est ça que j'ai envie de faire, en l'occurrence, voir quelles sont les structures sociales qui sont derrière cette échelle d'égotisme économique et voir justement comment les gens justifient et expliquent leur positionnement.
Je donne la parole 30 secondes, d'abord parce que j'ai oublié de le dire, mais parce que maintenant ça s'articule très bien. On sait tous qu'il y a le problème du marché du travail, des mutations du salariat, enfin bref, tout ce qu'on sait. Simplement, en vous entendant tous les deux, et moi ça me paraissait plutôt rassurant, mais là tu nous dis le contraire, je constate quand même... qu'il y a deux types d'explications. Enfin, il y a deux formes. Ton égotisme social, c'est pas les mêmes acteurs. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils sont de ce côté-là et pourquoi est-ce qu'ils sont pas sur ta première courbe, qui est la courbe la plus attendue des injustices sociales ressenties. Là, on entend bien que ceux qui s'abstiennent peuvent parfaitement se trouver dans la première courbe, mais il y a quand même deux courbes différentes. Donc, qu'est-ce qui... Et moi, j'étais pas sûre, en vous entendant, qu'il y avait une circulation évidente entre vos acteurs, ce qui est plutôt rassurant par rapport à un discours qu'on entend sur le basculement d'une, je ne sais pas s'il faut dire extrême gauche, on disait gauche tout simplement, hein, vers une extrême droite, ça sans aucun problème, mais une droite aussi. Je m'arrête.
Juste un mot sur la question des collectifs autres que les collectifs de travail. Dans l'enquête participation électorale, ce qui est formidable, c'est que c'est du comportement et c'est pas du déclaratif. Par contre, ils ont apparié les données avec des données de l'échantillon démographique permanent et on n'a pas, malheureusement, du côté des variables explicatives, grand chose de très satisfaisant. On n'a pas de questions sur des intégrations autres que dans le collectif. Mais là encore, l'enquête de terrain fait que je me pose beaucoup cette question-là en ce moment, parce que il se trouve que donc là, j'ai fait des entretiens dans une ville de province de taille moyenne où les femmes de ménage sont des femmes blanches et exclusivement blanches et à 90% quinquagénaires. Et que là, je vais commencer le terrain en Ile-de-France et que là, on a des femmes beaucoup plus jeunes et des femmes qui sont immigrées. Et dans ce que je commence à voir en Ile-de-France, là, il y a évidemment beaucoup plus d'interconnaissance puisqu'il y a des inscriptions dans d'autres collectifs. Ce qui me permet de dire que, pour revenir sur l'histoire de la création du syndicat, c'est pas le fait de travailler ensemble pendant 2 ans qui a fait émerger le syndicat, puisque c'est ce qui a rendu possible la concrétisation. Parce qu'en fait, ce qui rend possible, c'est le fait que une standardiste du centre d'appel essaye depuis des années de faire ça, que ça ne prend pas, qu'elle n'arrive pas à faire syndiquer une seule femme de ménage, et qu'elle arrive à faire syndiquer une femme de ménage qui a une énorme injustice sur sa fiche de paye, et il se trouve que cette femme de ménage travaille avec les 4 autres le matin, et du coup, les autres vont suivre. Mais donc, c'est pas le fait d'avoir d'un coup, à un moment, un endroit où elles vont travailler ensemble qui va faire émerger, évidemment, l'action collective. Et puis, pour répondre à la question de Laurent sur les données syndicales, dans les enquêtes qui ont des effectifs un peu sérieux, c'est très difficile d'avoir des données par catégorie socio-professionnelle. Il n'y a évidemment pas ça dans les enquêtes de l'INSEE. Dans les enquêtes internationales, il n'y a pas assez de monde, c'est pas assez rigoureux. Par contre, je crois qu'il y a des données à la DARES, notamment du côté des enquêtes réponses, où on doit avoir des données par secteur d'activité, par branche, où on doit avoir des taux de syndicalisation qui doivent vouloir dire quelque chose. Mais par CS, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'enquête. Pas qui...
ouais. On peut pas craser.
Peut nous rester
5 minutes. Je me donne peut-être la parole juste pour une remarque. C'est vrai qu'à vous écouter, on rêverait d'avoir une sorte de panachage d'enquêtes robustes sur la stratification sociale et les échelles d'attitude, d'opinion. Éventuellement, on pourrait rêver aussi d'avoir des enquêtes sur les classes moyennes. Je ne sais pas s'il en existe, peut-être, sans doute, et qui soient un peu moins colorblind. Parce qu'au fond, c'est aussi dans les questions dont on a parlé, politisation, dépolitisation, une question qu'on pourrait documenter. Alors, je me souviens plus si dans l'enquête Théo, il y a quelque chose... Oui, ouais, sur attitude politique et origine. Alors, sur les deux points, en imaginant bien toutes les difficultés méthodologiques... mais ça peut renseigner aussi, ou en tout cas aider à documenter certaines hypothèses. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ça, c'est un
en défaut de l'enquête participation électorale, en fait, parce que je disais tout à l'heure que les variables explicatives qu'on avait, alors elles sont bien du côté du travail, parce qu'on a du monde, on a un contrat de travail, etc. Mais par contre, la seule variable qu'on a, en tout cas qui est donnée aux chercheurs, c'est, il y a une variable qui s'appelle immigre, et c'est immigré oui ou non. Et en fait, on ne sait pas comment elle est construite. Et l'autre jour, je discutais avec Stéphane Beau, on a regardé, il n'y a même pas le pays de naissance des parents, par exemple, ou d'un des deux parents. Donc en fait, on sait si la personne est immigrée elle-même ou pas, mais il n'y a aucun moyen de voir les descendants d'immigrés, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un immense défaut. Alors, qu'il y a moins dans les enquêtes internationales, mais c'est pareil, les enquêtes internationales, c'est souvent des attitudes, des opinions, il n'y a pas de pratique, vraiment. Alors, quand on cumule plusieurs vagues, on peut commencer à avoir des effectifs corrects, mais c'est vrai que c'est un des grands manques, oui.
Même si ça évolue dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire que d'abord, l'idée même de l'enquête Théo, il y a quelques temps, c'était même pas pensable du point de vue d'INSEE, quoi. Donc, l'INSEE évolue sur ce sujet. C'est probablement l'endroit où on évolue le plus doucement, hein. Mais on y arrive et progressivement. Et les autres enquêtes ont des données maintenant sur, en tous les cas, sur les ascendances migratoires. Toute une série d'enquêtes qui ont des données, très clairement. On demande le pays de naissance des parents, ça ne pose pas de souci. Après, il y a d'autres questions qui sont plus difficiles, mais au moins là-dessus, on a des éléments. Hein, on a des éléments. Moi, je voulais poser une question à Camille, si j'ai le droit, Madame la Présidente. Mais juste, elle sera très courte. Elle sera très courte. Quid des chômeurs dans ces catégories ? C'est-à-dire, est-ce que les chômeurs sont réintégrés dans la catégorie des actifs ou est-ce qu'ils sont dans leur catégorie d'origine, comme on le fait dans les enquêtes, ou bien est-ce que c'est ouvriers hors chômeurs, etc.
Là, c'est les ouvriers. Enfin, c'est les chômeurs sont classés dans leur dernière profession.
Donc, c'est les ouvriers avec les chômeurs.
Ouais. Là, je suis en train de faire un papier sur juste les chômeurs, mais c'est compliqué. Ouais.